Le résultat a été généralement un assez fort conservatisme en matière sociopolitique. Puis le quatrième courant, alors, serait celui que j'appellerais la révolution originale, en reprenant le titre d'un livre de M. John Yoder en anglais. Il s'agit de la position anabaptiste. Qui est révolutionnaire dans ce sens qu'elle récuse radicalement la figure de ce monde . Elle juge que le premier courant restaure au fond l'Ancien Testament, alors que l'Ancien Testament, c'est du passé. Elle juge que le deuxième courant fait des compromis, en fait, avec l'éthique naturelle, l'éthique du monde. Elle juge que le troisième courant s'isole et accepte une sorte de partage de la vie, selon les deux royaumes, qui est indigne du disciple qui se remet tout entier à son Seigneur pour le suivre. Cette position anabaptiste a conduit, historiquement, je crois qu'on peut le dire, chez les anabaptistes qui n'ont pas été massacrés, qui ont réussi à survivre, soit aux martyrs, quand ils ont dû subir directement le choc de la politique des autorités, soit au retrait. Au retrait, parfois carrément dans des zones géographiques différentes, ou alors un certain retrait social au sein d'une société de petits groupes. Mais je vous signale que M. Yoder, en particulier, John Yoder, donc dont le livre « Jésus et le politique » vient de paraître au PBU, M. Yoder est le promoteur de ce qu'on pourrait appeler une théologie néo-ménonite, qui n'est pas une simple reprise et défense de la vieille position, qui, au dualisme très fort entre le monde et l'Église, et la vie de disciple, combine, d'ailleurs d'après l'influence exercée sur Yoder par le théologien Reinhold Niebuhr, combine l'idée que les chrétiens peuvent quand même influencer l'État. Ils ne peuvent pas occuper une position de magistrat, par exemple. Mais il y a, selon le titre d'un autre livre de Yoder, un témoignage chrétien à l'égard de l'État. Ce ne sera jamais qu'un moindre mal, mais les chrétiens, dans le sens de la révolution originale de Jésus, peuvent tenter de promouvoir des choses qui correspondent au royaume. Je n'ai pas le temps d'essayer de développer à propos de ces quatre positions, quelles sont les racines, comme je l'ai fait un peu à propos de l'antithèse confessant-professant. Je conclurai très brièvement, puisque je veux vous donner maintenant la parole, que ce qui me paraîtrait souhaitable, c'est beaucoup plus de dialogue entre ces positions. Il me semble que les évangéliques se sont trop souvent contentés d'occulter leurs différences pour pouvoir travailler ensemble, et ne se sont pas rendus mutuellement témoignage, comme ils auraient pu et dû le faire, sur leurs interprétations différentes de l'Écriture. Ils n'ont pas essayé de parvenir davantage à l'accord, qui est quand même le terme, l'unité de la foi, l'homme parfait, dont nous lisions l'expression dans le chapitre 4 aux Éphésiens. Bien sûr, ce n'est jamais facile, et il y a toujours le risque que des crispations personnelles se créent, qu'il y ait une sorte d'insécurité plus ou moins névrotique qui interfère. C'est possible toujours, mais c'est pourtant notre vocation, avec, je pense, comme grand modèle à conserver à l'esprit pour nous, le modèle trinitaire. Au fond, l'accent sur l'objectivité, qui est si chère aux confessants, l'accent sur l'autorité de la parole en tout domaine, correspond au Fils, qui est la parole. Et l'accent sur la vie, qui doit se manifester en réponse, correspond au ministère de l'Esprit. Et je suggère que c'est le modèle trinitaire où le Fils et l'Esprit sont distincts et un à la fois qui peut nous permettre d'atteindre l'équilibre et la plénitude dont parle précisément l'Épître aux Éphésiens. Voilà ma réflexion très brève pour conclure. Merci d'avoir patienté jusqu'à maintenant.
Alors, je vous donne la parole pour présenter vos questions à M. Blocher.
Peut-être que j'aurais une question concernant l'organisation ecclésiastique, n'est-ce pas ? Certains groupements qui mettent l'accent sur l'église locale, mais très très localisée,
oui.
Et l'indépendance, donc des petits groupes localisés, et alors d'autres qui sont... Et je refuse donc tout lien organique entre ces groupes, simplement une sorte de fraternité, et alors d'autres qui centralisent beaucoup plus l'organisation des églises entre elles. Sur la notion d'église, ça me paraît important à l'intérieur des évangéliques et aussi important dans les conséquences pratiques. Quelquefois, on a un esprit anti-organisation. Et un accent sur l'église locale, mais l'église locale est comprise différemment selon les groupes. Soit le petit groupe de quartier, ou alors l'église d'une ville ou d'une région.
Oui, je crois que vous faites un complément très, très utile à ce que j'ai dit, en notant ce point que je n'ai pas traité. Il m'arrive de parler de localisme, c'est-à-dire d'accentuation excessive de la notion d'église locale à propos de la tradition dont je suis moi-même issu, la tradition baptiste. Il me semble qu'il y a eu une sorte de susceptibilité qui s'est développée historiquement. Tout ce qui n'est pas purement local semble marqué d'infamie. J'ai noté dans le livre du très grand dogmaticien baptiste, très représentatif, Auguste Strong, quelque chose qui quand même me paraît bien difficile à fonder bibliquement. Il dit des apôtres à propos des communautés locales du Nouveau Testament, ils pouvaient conseiller, ils ne commandaient pas. Moi, quand je lis les épîtres de Paul, il me semble que Paul commandait bel et bien, qu'en fait, là, Strong est entraîné par cette allergie à l'idée d'une autorité qui pourrait se surimposer à l'église locale. Et si les baptistes sont allés, donc à mes yeux, vraiment trop loin dans le sens de ce localisme, ils ont été battus encore par d'autres. Hein. Watchman Nee, dans son livre sur la vie normale de l'Église, va encore plus loin dans ce même sens. Il me semble que dans le Nouveau Testament, des liens entre les églises locales sont évidents. Évidemment, l'office apostolique d'autorité sur les églises était destiné à la seule première génération. Et Tite et Timothée ont exercé par délégation du vivant de l'apôtre une telle autorité couvrant plusieurs églises. Mais il reste qu'il y avait des relations. Jacques, le frère du Seigneur, a exercé une forte influence. Or, lui n'était pas l'un des douze. Il n'était pas qualifié exactement de la même façon que les autres. Et il y a eu les lettres de recommandation, par exemple, que les églises ont échangées, qui me semble bien être la preuve que ces églises ne se sentaient pas si indépendantes. Souvent, les églises locales de la tradition baptiste, au moins, se sont senties. Je crois qu'il y a là une différence. Et puis, en plus de cela, il me semble que nous avons à prendre en compte la situation dans les grandes villes du Nouveau Testament. L'église de Dieu à Corinthe. Corinthe était une très grande ville. Les églises n'avaient pas de grands locaux, se réunissaient dans les maisons. Des membres les plus riches qui pouvaient sans doute héberger des réunions de 30, 40, 50 personnes. Il est probable que l'église de Corinthe était faite en même temps de plusieurs petites églises se réunissant chez un tel ou un tel. Alors comment est-ce que ça joue avec le thème de l'église locale ? Je ne pense pas que nous devions nous crisper trop, pour ma part, à ce propos. Mais c'est vrai que c'est une polarité, les localistes et puis les synodaux, s'il vous plaît, en face.
Aussi à propos donc, de toutes les œuvres dites inter-ecclésiastiques, il y a quelquefois un phénomène de rejet vis-à-vis de ces œuvres, y compris certaines œuvres de formation. On l'a entendu hier soir. Alors, cette notion d'église locale me paraît pas très, très précise dans les esprits. Pour certains, C'est très très important et il ne faut pas y toucher. Pour d'autres, c'est beaucoup plus large. Et il me semble que c'est un sujet de division entre évangéliques. Et aussi le problème de l'organisation des églises entre elles, notamment dans les jeunes églises qui sont représentées ici cet après-midi. Je crois qu'on tient beaucoup à l'autonomie des églises locales, mais en même temps on voit la nécessité de s'organiser. Alors heureusement en France on a cette possibilité des associations culturelles et des associations d'associations. C'est vraiment un problème qui se pose pour plusieurs églises.
Sur le problème des organisations inter-ecclésiastiques, j'ai eu récemment, c'était un mois à peu près, dans une église évangélique à Versailles, justement une après-midi qui était consacrée à ce sujet, en particulier avec des représentants des navigateurs qui fréquentent ordinairement cette église, et le problème donc était posé. C'est un débat fort intéressant. Moi, je suis particulièrement soucieux de repousser une façon de parler courante. La façon de parler qui suggère que quand ce sont les navigateurs ou les GBU, etc., ce n'est pas l'Église. Certains disent c'est l'Église qui doit évangéliser, alors ce ne sont pas ces organisations. Mais ces organisations ne sont pas hors de l'Église. Il s'agit de plusieurs Églises qui collaborent. En fait, leurs agents, leurs militants sont des membres d'Église. En réalité, ce sont plusieurs églises qui, en la personne de leurs membres, collaborent pour une œuvre commune. Quelle objection de principe est levée contre cela? Et en ce qui concerne le modèle néo-testamentaire, moi je suis prêt à plaider que l'équipe de l'apôtre Paul peut représenter un équivalent. L'apôtre Paul, soutenu par plusieurs églises, en tout cas celle d'Antioche, celle de Philippe, avec des coéquipiers qu'il a pris dans plusieurs églises, fait un travail d'évangélisation, il me semble que nous avons quelque chose qui peut bien passer pour une préfiguration de certaines des œuvres interévangéliques de notre temps. Et je signale que là, je ne me contente pas de la justification que donne Monsieur Kuhn dans le livre que vous avez lu. Monsieur Kuhn a l'air de dire oui à ces organisations interévangéliques, mais parce que les églises ont failli à leur tâche, à cause de la carence des églises. Alors là, c'est une logique que je ne pourrais pas prendre à mon compte. Parce que je dirais, si ce n'est pas le plan de Dieu, nous n'avons pas à inventer une solution de secours que Dieu n'aurait pas prévue. C'est pas à nous de le faire. Si le plan de Dieu est que ce soit l'église locale au sens le plus étroit, eh bien, nous n'avons pas à faire autre chose. Même si l'église locale est défaillante, elle doit se repentir et c'est tout. Nous n'avons pas, nous, ce serait la tentation de Hagar, si vous voulez, dans l'histoire d'Abraham, une invention humaine au lieu de la solution divine. Seulement, je ne suis pas prêt à penser que ces organisations inter-ecclésiastiques ne sont nées que de la défaillance des églises. Au contraire, je dirais, ce sont les églises qui ont collaboré pour que certains de leurs membres au moins remplissent ainsi une mission à laquelle Dieu appelle les églises. Voilà ce qui me paraît sur ce premier sujet. Alors en ce qui concerne les problèmes d'organisation, je veux dire simplement un mot. Donc je le dis tout de suite avant que M. Gou me prenne la parole. Le grand piège à mes yeux, c'est ce piège d'une opposition faite a priori entre la vie, la liberté de l'esprit, etc., et puis l'ordre, l'organisation. Tout à l'heure, je suis resté descriptif, j'ai mentionné que dans certains courants, on accepte cette opposition, mais il me semble qu'elle est contraire au modèle trinitaire dont j'ai parlé à la fin. Précisément, l'esprit est l'esprit du Fils, du Verbe, il travaille par et avec la parole. Vous ne trouvez nulle part dans l'Écriture cette idée qui flotte chez beaucoup. Oui, bien sûr qu'il y a l'aspect rationnel, intelligence avec la parole, doctrine, etc. Mais que l'esprit, c'est l'autre pôle de l'irrationnel qui jaillit, on ne sait pas comment. Vous ne trouvez pas cela? Certains accrochent cette pensée à la parole de Jésus en Jean 3, l'esprit souffle où il veut. Mais ça ne veut pas dire que l'esprit soit un agent irrationnel et capricieux. Il s'agit du mystère de la nouvelle naissance. Comment la nouvelle naissance peut-elle se produire? Jésus prend l'image du vent. Et tu ne sais pas comment naît le vent, mais tu vois les effets. De même pour l'œuvre de l'esprit. Ça ne veut pas du tout dire donc que l'esprit soit du côté de l'irrationnel. Vous voyez, c'est vraiment un a priori qui correspond à des philosophies modernes, mais pas du tout à des données bibliques. Bon, c'est tout ce que je voulais dire sur ce point. Monsieur Bou.
Pour reprendre votre propos, je crois que le souci, c'est l'équilibre. Mmh. Et moi, j'ai été personnellement convaincu que, effectivement, la Bible nous présente le travail de l'Église locale, et aussi, il y a cette étude apostolique, par exemple. Mmh. Mais je voudrais juste faire un petit rééquilibrage, peut-être. C'est-à-dire que les Églises, quelquefois, ont une pensée critique envers les mouvements qui ne sont pas de l'Église, ou soi-disant qui ne sont pas de l'Église. On peut trouver l'inverse aussi, et j'ai été personnellement souvent attristé par des organisations de jeunesse, par exemple. Alors, lorsque vous retrouvez quelques responsables d'organisations de jeunesse qui discutent entre eux, ils ont des discussions de responsables de jeunesse, à savoir que leur mouvement apporte quelque chose à la jeunesse, mais les églises ont failli à leur tâche, les églises ne peuvent pas intégrer les jeunes, les églises sont... Et je crois qu'il faut... Il y a un équilibre, les deux effectivement ont leur place et il n'y a pas assez des deux, et Église et organisation, pour la proclamation des évangiles, entre autres.
Moi je dis amen, je souscris entièrement. Hein. À cause de certains discours que j'ai entendus et de sophismes qui s'y cachent, j'ai réagi il y a quelques instants, en soulignant en quelque sorte le bon droit biblique de ces organisations interecclésiastiques, mais je ne nie pas du tout, en pratique, l'existence de déséquilibre, et je voudrais aussi avertir contre la tendance de certains mouvements à devenir des sortes de concurrents pour les églises, des églises qui ne sont pas des églises, faire des cercles où la diversité nécessaire à l'Église, par exemple, n'est plus représentée, et qui pourtant servent de succès d'années d'Église. Alors ça, c'est très, très dangereux, je pense, ce n'est pas légitimable bibliquement. Oui, monsieur.
Les confesseurs, en mettant trop l'accent sur les témoignages, sur l'homme...
Les professeurs, dans le schéma que j'ai présenté tout à l'heure, c'est l'accusation au moins que certains lanceraient aux professants. Hein. Oui.
Oui, mais je parle de confesseurs.
Oui, alors les confessants, eux, font plutôt le contraire.
Voilà. Oui. Et mettant l'accent sur l'homme, sur le témoignage, il met en péril la grâce, comme vous venez de dire. Mm-hmm. C'est vrai, mais en sens contraire, mm-hmm. les confessants, mm-hmm. et mettant trop l'accent sous la grâce, il dit là, c'est un fait.
Non, c'est le contraire, hein, confessant-professant.
C'est un fait, chez la Bible. Vous ne voyez pas qu'il met en péril l'action de l'homme. Ça veut dire qu'il semblerait qu'à cause de cette grâce, l'histoire de l'homme est réglée déjà à l'avance, sans que lui puisse convaincre lui. Les mots s'excitent, moi c'est à vous, je ne sais pas le prononcer.
Je pense que dans la tradition confessante, donc, celle qui met l'accent sur la souveraineté de la grâce et son objectivité, sur le fait que tout est fait en dehors de nous, avant nous, c'est un accent très luthérien et très réformé, et ce sont ceux-là que j'ai appelé confessant, je pense que cela, disons, implique une tentation de minimisation indue, d'élimination de la responsabilité de l'homme, de la nécessité pour l'homme d'exercer la foi pour être sauvé. Ça comporte cette tentation. En même temps, je crois devoir dire que pour les évangéliques, parmi ces luthériens ou réformés, il n'est quand même pas question d'envisager que quelqu'un soit sauvé s'il n'a pas cru, personnellement. Il souhaite le maintenir. Il pense qu'il ne faut pas mettre trop l'accent, mais je ne pense pas qu'aucun évangélique pense que c'est par une sorte d'automatisme que l'on puisse être sauvé, parce que la grâce aurait opéré, en quelque sorte, d'une façon à rendre négligeable la réponse de l'homme. Cette réponse de l'homme, alors c'est ce que j'affirmerai, moi, professant, simultanément, et pour eux, produite par l'Esprit même de Dieu en nous, c'est un fruit donc de la grâce, mais cela n'empêche pas que c'est une réponse de l'homme qui est importante comme telle dans le plan de Dieu.
Oui, monsieur. Je voulais soulever la question ce matin, tout à l'heure, au sujet du baptême des nourrissons.
Oui.
Et aussi des enfants. On discutait ça un peu ce matin.
Ah oui.
Est-ce que vous avez une position personnelle ou bien un conseil à donner au sujet de l'âge du baptême des enfants?
J'y réfléchis bien sûr, mais je trouve la question très délicate. Je ne vois qu'une raison théologique, malheureusement, sans un texte biblique pour consolider, pour le report jusqu'à l'âge de responsabilité, c'est-à-dire pratiquement l'adolescence, du baptême. Au lieu du baptême, donc, à 6-7 ans, pour un enfant qui s'est converti ou qui dit l'avoir fait, le report jusqu'au moment où il a au moins 15 ans, par exemple. Je ne vois qu'une raison théologique à amener, mais malheureusement, je dirais, je ne vois pas de texte biblique qui puisse tout à fait confirmer. Alors, cette raison théologique est la suivante. Non seulement, me semble-t-il, le baptême est l'expression de la foi en réponse à la parole de Dieu, cette confession que nous faisons devant Dieu et devant les hommes, mais elle est aussi l'engagement du corps, de l'être public, par l'individu qui est baptisé. Il s'engage avec toute sa vie visible, puis c'est un acte visible, comme disciple de Jésus-Christ. Or, si on admet cela, je pense que vous pourrez assez bien l'admettre avec moi, on peut dire que l'enfant à 8 ans, à 9 ans, n'a pas encore la libre disposition de son corps. Il est sous l'autorité de ses parents à cet égard. Donc il ne peut pas encore engager son corps, cette existence publique, puisqu'il n'en est pas gérant. Ce sont ses parents qui le sont. Donc là, il y a une raison théologique lié à la signification du baptême pour le report jusqu'au moment où l'individu est effectivement responsable du gouvernement de son être extérieur et peut le remettre au Seigneur en tant que disciple dûment enrôlé. C'est une raison théologique, mais il n'y a pas de texte biblique qui me dise. Je pense que cette notion d'engagement est bien présente en 1 Pierre 3, même si c'est la conscience qui engage le corps. L'idée que l'on devient un disciple, faisant le pas du baptême, je crois qu'elle est assez visible. Seulement que les enfants ne soient pas en mesure de prendre un tel engagement n'est pas dit non plus. Je verrai peut-être un seul élément, j'en parlais à table d'ailleurs avec quelqu'un tout à l'heure, un seul élément qui pourrait suggérer que les enfants, même de 6-8 ans, conscients donc, voyez, n'étaient pas baptisés dans le Nouveau Testament. C'est la mention qui est faite en acte 8 des deux catégories de gens baptisés à Samarie. Le texte précise hommes et femmes. Alors que, par exemple, dans le récit, je crois que c'est dans Matthieu ou dans Marc, je ne sais plus, de la multiplication des pains, il est précisé que le nombre de ceux qui ont été nourris, plus de 3000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Là, manifestement, il s'agit d'enfants qui ne sont pas de simples nourrissons, puisqu'ils étaient là présents avec leurs parents à la grande réunion, qu'ils ont mangé du pain. Ils n'étaient pas au biberon. Et ils sont pris comme une catégorie distincte dans la liste. Alors, si en acte 8, nous avons deux catégories, et non pas les trois, qui sont mentionnées, cela peut être au moins un indice, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit plus qu'un indice, mais un indice que la catégorie enfant, incluant les enfants de 6, 8, 10 ans, n'était pas soumis au baptême. Mais ça, c'est quand même loin d'un texte tout à fait formel, cela. Vous voyez que ça ne nous donne pas une preuve entière. Alors, autrement, eh bien, c'est l'expérience qu'on peut invoquer, mais c'est toujours dangereux de se laisser conduire par l'expérience. J'ai l'impression, pour ma part, que l'expérience des baptêmes d'enfants conscients, croyants, disant croire, n'a pas été foncièrement positive. Que là où on l'a pratiqué très souvent, chez les baptistes du Sud aux États-Unis par exemple, cela tend à recréer une situation, pas tout à fait multitudiniste, mais quand même, où l'accent professant s'atténue, qu'il y a quand même tellement de cas où des enfants d'une famille chrétienne, ou avec une ambiance, très appuyée, ont fait profession de conversion pour qu'ensuite ils se découvrent qu'ils ont été là, soumis à une sorte de conditionnement qui n'était pas vraiment une œuvre de l'esprit dans leur cœur. Il y a trop de cas de ce genre pour que je me sente très libre de recommander les baptêmes avant un âge de responsabilité individuelle affirmée, c'est-à-dire, je pense, une quinzaine d'années. Mais je vous l'avoue, je ne suis pas parfaitement à l'aise parce que je n'ai pas les textes bibliques formels qui me mettraient tout à fait à l'aise. Oui.
Si vous pouvez préciser ce que vous pensez au niveau des baptêmes de nourrissement quant à la responsabilité de devenir adulte, se
refaire. Et alors là, je réponds en baptiste que je suis. Je quitte en quelque sorte le poste d'objectivité descriptive que j'ai essayé d'occuper dans l'exposé jusqu'à présent. Je crois personnellement que le baptême des nourrissons n'a pas de titre biblique à l'appellation de baptême. Je crois que ce n'est pas un baptême, que c'est une cérémonie inventée par les hommes qui aurait pu éventuellement être instituée par Dieu, mais qui n'a pas été. Donc ce n'est pas un baptême. Donc quelqu'un qui l'a subi n'a pas été baptisé. Et que l'ordre du Seigneur demeure donc pour lui. Voyez. C'est aussi simple que cela. Évidemment, ça choquerait beaucoup des frères pédobaptistes, comme on les appelle, mais voilà la position à laquelle j'arrive. Oui, monsieur, oui.
Voyez-vous pas l'importance capitale pour l'attache du baptême et des fois des pour certains croyants par rapport à la diversité de la personne donc, qui est convertie par rapport à ce qu'il arrive au baptême, est-ce que ça ne vient pas parfois, je dis bien, à des échelles dans le sens que, en tant que chrétien converti, ils deviennent tiennes lorsqu'ils sont arrivés au baptême?
Hélas, le cœur de l'homme étant retors comme il l'est, même régénéré, encore, il subsiste tant de vestiges du vieil homme en nous que je pense que ça arrive, ce que vous dites, que pour certaines personnes, le baptême donne une sorte d'illusion d'être arrivé et peut-être le prétexte d'un attiédissement. Mais évidemment, c'est tout à fait anormal. C'est juste le contraire qui devrait être. Le baptême devrait être bien conçu comme un point de départ. Peut-être ne prêchons-nous pas prévu pour elle, qui est une démarche qui doit les aider. Normalement, c'est plutôt ça qu'on devrait observer. Oui, je vous en prie.
Pour conclure ma question, je rejoins un peu la chrétienté de nos jours par rapport à la vie de couple et du mariage. Mm-hmm. Dans le sens que les jeunes qui se marient, je me considère peut-être à peu près au même niveau que le baptême, mm-hmm. par rapport au mariage de nos jours, quand on voit les jeunes ne sont pas préparés au mariage, et quand on le voit au stade du mariage par lui-même, amène à des échecs.
Oui, je pense que c'est une assez bonne analogie. Bien sûr, elle ne vaut pas sur tous les points, mais je pense, moi je serais d'accord avec vous. Oui.
On a beaucoup parlé du baptême, des débats, je crois, des questions. Est-ce que c'est pas intéressant de remarquer que quand on parle d'évangélique, je pense aussi à la revue Union des chrétiens.
Unité des chrétiens.
Il y avait en première page un baptême.
Oui.
Je ne sais pas ça finalement dans l'esprit de l'extérieur. Un évangélique, c'est d'abord un baptisé par immersion quand il est adulte.
Bon, je crois que c'est une image qui se répand, effectivement. Et je sais que quelqu'un comme mademoiselle de Védrine n'a pas été quand même tellement heureuse, elle qui est réformée évangélique, de voir que la revue Unité des Chrétiens, où elle a aussi présenté son église, avait en page de couverture cette photo d'un baptême par immersion. C'est une image qui se répand. Je crois qu'elle est injuste dans la mesure où les réformés évangéliques méritent autant que les autres le titre d'évangélique, d'après l'usage anciennement établi, que nous ne devons surtout pas céder à cette caricature des choses qui nous les ferait considérer comme des évangéliques un peu douteux. Bah, ça serait tout à fait injuste. Et ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure de leur façon de prendre le problème devrait nous aider à bien comprendre cela. D'autre part, je pense qu'on ne peut pas nier qu'il y a une évolution du sens du mot dans l'usage courant en France depuis une quinzaine d'années, que le mot évangélique tend de plus en plus à se référer aux professants. Je pense qu'il y a au moins deux raisons à ça, j'en cite deux comme ça. Une première raison, c'est que les autres ont à disposition soit le mot évangélique, soit le mot réformé. Et la faculté d'Aix, par exemple, a choisi le mot réformé. Du coup, ça polarise l'usage du mot évangélique du côté des autres. Et la deuxième raison, c'est que par une véritable grâce du Seigneur, c'est comme ça que je le conçois, au moins à 97%, les professants français sont évangéliques. Vous savez que ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, il y a des professants libéraux en nombre important. Il y a des centaines de milliers de baptistes non évangéliques aux États-Unis. Or, il se trouve, le Seigneur nous a épargné à cet égard, que vraiment, en gros, tous les professants francophones sont évangéliques. Du coup, ça tente à faire s'équivaloir les expressions. Oui, question. Oui, oui, je vois votre question. Je pense que je ne me range strictement dans aucune des quatre catégories que j'ai évoquées tout à l'heure. Évidemment parce que je les ai stéréotypées un peu trop nettement, sans doute. Je ne suis pas anabaptiste, c'est sûr. Je ne suis pas pacifiste comme le sont les Mennonites. Je compte écrire une recension critique du livre de M. Yoder, par exemple, pour bien dire mes raisons à ce propos. Mais, malgré tout, j'apprécie dans la théologie Mennonite et même Yoderienne un sens de la nouveauté de la nouvelle création, du fait que l'Église, dans sa vie interne, doit être l'expression d'une autre politique, c'est-à-dire une autre façon de vivre ensemble, un autre gouvernement. J'apprécie cela comme une note juste que je ne trouve pas assez dans les autres positions. Donc, même cette position à laquelle j'adhère peut-être le moins, je n'en suis pas. Je pense ne pas me rattacher aussi très directement à la tradition piétiste, mais le thème des deux royaumes ne me semble pas à refuser. Je crois que « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » établit une nette distinction que, par exemple, mes amis réformés, théonomistes, ne respectent pas assez à mes yeux. Je pense que c'est quelque chose d'important que je joins alors avec ce thème de la nouvelle création. Le royaume du Christ est spirituellement présent, c'est la nouvelle création spirituellement présente qui doit s'exprimer dans l'Église par un mode de vie tout différent. D'accord. Les implications sociales de l'Évangile, ben c'est sans doute ce que je dirais aussi, mais je suis quand même peu satisfait par la procédure de décision en matière politico-sociale de mes amis proches, là encore, comme John Stott ou Andrew Kirk. Je les trouve trop dépendants de courant de pensée du monde d'aujourd'hui, bien intentionné, mais et pas assez rigoureux, ne partant pas assez de l'étude biblique pour cela. Et je crois, avec les théonomistes, que se rapporter à l'Ancien Testament est très utile. Seulement, je crois qu'il faut faire des transpositions plus considérables qu'ils n'en font. Vous voyez un peu comment je me situe dans cet ensemble. Oui, monsieur, vous reprenez la parole, oui. Non, après, vous ce sera après.
Et les temps d'une église évangélique, ménageant à écouter ce que tu avais dit au sujet de ce évangélique, nous sommes considérés que le terme évangélique est mal connu en France. Et de ce fait, et cette église, il y a voulu convenable mettre le terme protestant. C'est fait, c'est ton rival on s'appelle Église protestante évangélique. En connaissant votre pensée différente entre protestant et évangélique, vous croyez que nous avons fait une bonne chose ou une mauvaise chose?
Une bonne chose. Indubitablement. D'abord, parce que, avant les divergences, j'ai parlé du patrimoine commun. Donc, je crois que les évangéliques sont des protestants. Et les distinctions dont j'ai parlé ensuite sont des distinctions entre protestants. Et ensuite, parce qu'effectivement, pour se faire comprendre du grand public aujourd'hui, pour cette raison que vous avez évoquée, je crois que le mot de protestant continue d'être indispensable. Oui.
Je pense que nous devons malheureusement mettre un terme à notre séance. Merci à M. Blocher, certainement de la clarté de son exposé. Et, nous avons, je pense, tous appris pas mal de choses cet après-midi. Et merci beaucoup de vous être déplacé et de l'effort que vous avez fait pour être des nôtres. Nous allons